RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct du stand des Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture. Nous sommes au Hall 7 avec Abel Bouilly, Barbara Lefebvre et avec Emmanuel Devilliers. On va parler de la pêche dans un instant. Mais si vous aimez la mer, justement, et si vous aimez la montagne ou si vous aimez la campagne, n'oubliez pas les vacances Bellambra à vous faire gagner jusqu'à demain, demain compris, bien sûr. En plus, c'est du séjour all-inclusive, comme on dit, c'est-à-dire tout est pris en main. Vous serez premium dans l'un des 45 clubs Bellambra. À vous de choisir votre destination, mais pour gagner, il faut m'envoyer vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. C'est vous qui jouez, c'est vous qui gagnez. Vous partez ensuite en vacances en famille ou entre amis grâce à Bellambra, le gagnant tout à l'heure à 11h20.
Je rêve d'eau, mais d'océan.
En ce moment, les parties de pêche, c'est pas une partie de plaisir pour nos amis pêcheurs ici, pêcheurs du côté des Hauts-de-France. Nous sommes avec Bruno Margollet, il est pêcheur à Étaples-sur-Mer dans le Pas-de-Calais et c'est le vice-président du Comité national des pêches. Bonjour Bruno.
Bonjour. Merci d'être là. Enfin, on est chez vous là, dans les Hauts-de-France.
Complètement.
Ça représente quoi la pêche justement pour cette région ?
Bah écoutez, la pêche, Boulogne-sur-Mer, c'est quand même le premier port de pêche déjà d'une, donc il faut le savoir. Hein, et il est quand même débarqué plus de 30 000 tonnes de poissons frais, même s'il y a 350 000 tonnes qui sont négociées sur la place boulonnaise, hein, qui est le premier centre européen de transformation du poisson. Mais il y a quand même 30 000 tonnes qui sont débarquées par les pêcheurs locaux.
Et c'est un secteur qui se porte bien ou un secteur en crise ?
C'est un secteur qui est compliqué aujourd'hui, bien entendu. On va parler quand même, le Brexit est passé par là. Ça a quand même.
Qu'est-ce que ça a changé ?
Bah, ça a changé beaucoup de choses, même si on a eu des accès qui ont été accordés par nos amis britanniques. Hein, je dis bien nos amis britanniques parce qu'aujourd'hui, on connaît un peu la perversité de ces gens-là.
N'oubliez jamais, c'est la perfide Albion, n'oubliez jamais.
Ah, mais je.
Depuis la nuit des temps.
Attendez, la perversité des Britanniques, comment elle se manifeste ?
Elle se manifeste, bah, aujourd'hui, ils ont mis en place des aires marines protégées. Moi, je peux vous le dire honnêtement, j'ai navigué 40 ans dans la Manche, je connais les fonds comme ma poche. Hein, il y a certainement des zones à protéger, on est tout à fait d'accord. Il y a des zones à protéger, il y a des lieux qui ont un écosystème spécifique. On est tout à fait d'accord. Et là, ça, aujourd'hui, ils nous imposent des aires marines protégées pour protéger du sable. Donc, indirectement, et c'est pas fini, hein, bien entendu, ça, les champs
éoliens. Pourquoi ils font ça ?
Pour vous évacuer, tout simplement.
Oui, c'est la concurrence.
On a crié victoire en début d'année en disant chic, on a renégocié les accords d'accès au 6-12 000 jusque 2038. Hein. Bon, ouf. Et puis, quand on voit aujourd'hui de la manière où ils agissent, eux, c'est un peu pour nous évacuer de leurs eaux, tout simplement.
Donc, c'est vraiment la guerre avec les Anglais, quoi.
Alors, je ne veux pas dire que c'est la guerre tous les jours, mais.
Ça veut dire quoi ? Il y a des affrontements avec les bateaux, avec vos copains, avec les autres pêcheurs ou pas, alors ?
Bah, la problématique, c'est que, étant donné qu'on ne peut plus aller dans les zones où on est restreint dans les zones britanniques, toutes les flottilles européennes se rabattent dans la ZEE française.
Aïe.
Donc, il y a une surexploitation dans la ZEE française.
Qu'est-ce qu'on pêche, là ?
Actuellement, ben, on pêche du merlan, on pêche du hareng, on pêche de la sardine. Aujourd'hui, Boulogne.
Il y a de la sardine à Boulogne.
Bien sûr. 7000 tonnes de débarqués l'année dernière.
Ah bon ?
Oui. Et donc, en fait, tous les bateaux se retrouvent au même endroit ?
Oui.
Et donc,
il y a un gros problème de cohabitation.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ?
Il faut les couler ?
Non, voilà.
On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'on fait avec les Britanniques, alors ?
Eh bien, les Britanniques, ils sont chez eux. De toute façon, c'est ce qu'on nous rétorque sans arrêt à la Commission européenne. Ils sont chez eux.
Ah oui.
Hein, et il n'y a pas moyen. Moi, je dis qu'aujourd'hui.
Mais alors, comment la Commission européenne peut nous aider à mieux nous protéger ?
Voilà, il y a eu des accords de commerce et de coopération ont été négociés. Et aujourd'hui, est-ce que c'est respecté ? That is the question.
Barbara ?
Mais, excusez-moi, les Britanniques ont repris leur souveraineté. Alors je sais, c'est pas bien la souveraineté nationale. Make America Great Again, c'est pas beau. Make Great Britain Great Again, c'est pas bien. Parce que évidemment, comme il s'agit de faire de la France encore moins bien que ce qu'elle était, on comprend pas qu'il y ait des nations qui reprennent leur souveraineté. Le Brexit, ça a été la reprise de la souveraineté, y compris la souveraineté sur les zones maritimes. 70% de la pêche britannique, elle est exportée vers l'Union européenne. Les Anglais, ils ont tout compris dans leur façon de gérer le Brexit. On les a pris pour des abrutis. C'est toujours facile de faire passer Boris Johnson pour un naze, de venir nous expliquer « Oh, Nigel Farage, le Brexit, finalement, ils sont bien déçus ». Non, non, finalement, ils sont gagnants. Parce que la reprise de la souveraineté, c'est un élément qui permet aussi, dans certains secteurs, et la pêche, c'est pas non plus le premier secteur de l'économie britannique, hein, mais pourtant, c'est un secteur sur lequel ils ont réussi à reprendre pied, à regagner des parts de marché parce qu'ils ont regagné leur souveraineté nationale. Donc moi, je suis désolée, je pense que pour les pêcheurs français, ce qu'il faudrait, ce serait, alors je ne dis pas de faire un Frexit, mais ce qu'il faudrait, c'est en effet d'arrêter d'attendre que la commission de Bruxelles et que Ursula fasse quelque chose pour nous. Elle fera rien pour nous, elle s'en fout. L'Allemagne, c'est pas un grand pays de pêche, donc elle s'en fout. Mais non, l'Europe est allemande, tant que vous comprendrez pas ça. Donc pour l'instant, les pêcheurs français, comme les agriculteurs français, c'est la dernière roue du carrosse, et c'est pas monsieur Macron qui ira les défendre. Donc encore une fois, la seule possibilité, ça aurait été de remettre sur pied une Europe des nations qui permettrait de défendre la souveraineté nationale française. Donc c'est normal que les pêcheurs français subissent les pêcheurs anglais. Et moi, je suis désolée, si j'étais anglaise, je serais contente pour mon pays.
Donc là, on subit, on est perdant pour le moment alors.
Moi, pour moi, on subit, oui, bah oui, parce que dans l'accord de commerce et de coopération, les Britanniques ont récupéré 25% des quotas, d'une, et ils exportent leurs produits sans droit de douane.
Et ils les exportent chez nous.
Bien sûr.
Oui, donc on s'est fait un peu avoir.
Tout ça géré par M. Barnier, hein, c'était lui le chef des accords du Brexit.
Quels sont les pays concurrents qui viennent assécher conjointement aux Français notre petite zone alors?
On va dire qu'on a nos Néerlandais, les Britanniques, bien entendu, les Néerlandais, les Britanniques, les Belges.
Oui.
On commence à avoir, suivant les périodes de l'année, des bateaux qui viennent des Danois.
Et les Néerlandais sont équipés, paraît-il, avec des bateaux très très performants.
Ils ont une technique de pêche qui est plus performante que nous.
Plus offensive.
Et des bateaux beaucoup plus, beaucoup plus gros.
C'est-à-dire c'est des bateaux usines, ce qu'on appelle les bateaux usines.
C'est pas comme des bateaux usines, mais enfin, je veux dire, c'est des bateaux qui font entre 35 et 40 mètres, alors que nous, notre flottille maximum de la pêche artisanale, c'est des 24 mètres.
Combien de personnes vivent de la pêche dans les Hauts-de-France?
Exactement, écoutez, je pense qu'au niveau des Hauts-de-France, c'est à peu près 500 navires. Si on prend de Dunkerque jusqu'à la côte normande, c'est 500 navires. Donc il y a quand même la coquille Saint-Jacques qui est un gros morceau aussi.
Mais la coquille Saint-Jacques. Ils ont des bateaux plus importants que les autres. Ils ont des bateaux de combien vous dites? 30, 40
mètres. Entre 28 et 40 mètres, oui.
Ouais, mais c'est de la concurrence déloyale. Donc
complètement.
On est d'accord. Nous, on est bridés par la taille de nos bateaux.
Ça fait des années qu'on demande un plan de gestion spécifique en Manche. Aujourd'hui, la Manche Est, c'est le Far West.
Ah oui, carrément.
Carrément, c'est le Far West. Tout est flotti. On a le bonheur d'avoir des espèces, entre guillemets, non soumises à quota, telles que les céphalopodes, l'encorné, la sèche. Et tout, c'est des poissons qui ne sont pas soumis à quota. Donc, c'est open bar.
Mais on a l'impression que les Anglais sont toujours gagnants, parce que vous qui naviguez depuis 40 ans, il y a eu plusieurs épisodes de ce qui a été appelé la guerre des coquilles entre les pêcheurs français et les pêcheurs anglais, où on n'avait pas les mêmes réglementations en ce qui concerne le droit de pêcher les coquilles. Vous avez fait allusion aux coquilles Saint-Jacques. Mais les Anglais, on a l'impression qu'ils gagnent tout le temps. Donc vous qui êtes expérimenté, comment voyez-vous l'avenir? Oui, exactement. Les pêcheurs français sont aussi pris en tenaille par Ursula von der Leyen et toute sa clique. Comment voyez-vous l'avenir, très honnêtement?
Nous, la coquille, elle est gérée régionalement et franco-français, bien entendu. La coquille Saint-Jacques, nous, en France, on est obligé de la débarquer vivante. Mmh. Hein, on est d'accord, et on a des quotas journaliers. Donc nos bateaux partent 2 heures, 3 heures de pêche, ils pêchent leurs quotas, ils rentrent. C'est 3-4 quotas par semaine. Les Anglais, ils sont en dehors des 12 000, mais eux, ils pêchent.
Tout le temps.
Mmh. Et ils n'ont pas l'obligation de débarquer un poisson vivant. Alors, ce qui est paradoxal, c'est
que. Oui, mais c'est quand même mieux qu'on ait des normes qui soient un peu respectueuses
on
de
est
l'environnement.
Tout à fait. Oui, mais il faudrait que les autres l'appliquent aussi.
Ça fait mais ça, c'est l'Union Européenne. C'est pas pour rien que les Anglais en sont sortis.
Quand on voit la prolifération des coquilles et ces pêches formidables ces dernières années, les quotas sont sans doute excessifs. C'est trop géré. On n'a pas assez de liberté.
Écoutez, en France, c'est bien géré, puisqu'aujourd'hui, c'est une flottille de coquilles Saint-Jacques, essentiellement en baie de Seine, qui se portent très bien, bien entendu. Il y a des bateaux, ils font que la coquille Saint-Jacques. Ils travaillent 8 mois de l'année, point barre. hein, puisque derrière, ils n'ont pas la possibilité d'accès à d'autres quotas, bien entendu.
Mais vous-même, vous avez pêché pendant 40 ans.
Oui.
C'était une vocation. Votre père était pêcheur ou...
Non, mais nous, on est pêcheurs depuis 3 siècles.
Trois siècles,
oui. De père en fils. J'ai mes fils actuellement qui sont pêcheurs également.
Et ils ont repris. Et justement, je voulais parler de ça, c'est que c'est un métier d'avenir. C'est-à-dire qu'on peut dire à nos enfants, la pêche, ça va continuer. Il y a, même si c'est un métier difficile.
C'est un métier difficile, c'est un métier compliqué. Il faut faire preuve de résilience. Je peux vous assurer qu'on fait preuve de résilience depuis un certain nombre d'années.
C'est quoi les horaires, par exemple, d'un pêcheur?
Il n'y a pas d'horaire.
Il n'y a pas d'horaire.
Il n'y a pas d'horaire.
C'est et combien et on gagne
pourquoi, bien pourquoi
sa vie
pas d'horaire.
Pardon.
On gagne bien sa vie quand
on gagne encore bien sa vie, oui, bien sûr. Oui, oui. Un pêcheur, de je veux dire, sur une entreprise de pêche, il peut gagner au bas mot 2 500 euros et ça peut aller un peu plus.
Mais en travaillant beaucoup quand même.
Hein. Ah, mais on compte pas nos heures. Pas
les heures. Notamment la pêche de l'encornet qui a été très rentable.
Oui. Oui.
Rentable.
Oui.
Et un très beau souvenir de pêcheur dans vos 40 ans de navigation.
De l'encornet
en général.
Quel est votre plus beau souvenir, vous, en tant que pêcheur?
Bah, écoutez, plus beau souvenir, quand il y avait encore du gabillot en manche, vous faisiez des coups de gabillot du Val de la Morue, des coups de chalut de 3 tonnes de gabillot. Aujourd'hui, tout ce poisson là, il a migré vers le nord, bien entendu. Hein, tout ça, ça a été bien entendu, ça a été bien encadré. Mais tout ce poisson là, il est migré vers le nord.
Et pardon, le dérèglement climatique, vous le voyez sur les espèces qui évoluent sur...
Il y a un dérèglement sans précédent ces 4-5 dernières années.
Comment ça se manifeste?
Bah, regardez, on pêche du thon rouge en manche.
Du thon rouge?
Du thon rouge, bien entendu. On n'a jamais vu ça. Bah, vous m'auriez dit il y a 4 ans, oui, vous allez pêcher du thon rouge en manche.
L'eau est plus
chaude.
Et les sardines aussi.
Sardines. Mm-hmm. On s'est spécialisé, nous, dans la sardine.
Mais elle est arrivée quand, la sardine?
Oh, bah, elle était toujours là, mais on ne l'exploitait pas.
Ah oui, d'accord. Mais
moi qui suis local, j'ai le sentiment, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, qu'il y a plus de homards au Cap Blanc-Nez, Cap Briné qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est vrai ou pas?
Je suis incapable de vous répondre parce que je suis pas spécialiste dans les crustacés.
Okay.
Très certainement, oui, vous avez peut-être raison, oui.
Oui, parce que les homards, c'est une bonne production chez les De Villiers. Je peux vous dire que Touquet, ils sont pas les derniers.
Contrairement aux vieux crabes en politique.
Voilà, c'est ça.
Mais là, du coup, puisqu'on va rentrer en campagne pour l'élection présidentielle, là, vous allez avoir tous les candidats qui vont venir vous voir, vous, au Comité national des pêches. Vous attendez quoi d'eux? Ou est-ce que vous attendez encore quelque chose des politiques ou plus rien, finalement? Franchement.
Je peux vous assurer que on martèle sans arrêt nos politiques, nos élus. On a encore rencontré Emmanuel Macron, notre président, samedi sur le stand de France Filière Pêche. Tout ce que je suis en train de vous dire là, on l'a rabâché, on l'a redit. Et bien sûr, derrière, il y a la Commission européenne, hein, comme vous le savez, comme l'agriculture, c'est une politique intégrée. Donc c'est toujours compliqué de faire bouger les lignes. Hein. Mais il faut qu'on se fasse entendre.
C'est le cas
aujourd'hui, c'est la souveraineté alimentaire qui est en jeu. On n'arrête pas de nous bassiner sur la souveraineté alimentaire. Vrai.
Bruno, figurez-vous que pendant que nous discutions... Attends, on a Manu, qui est un fidèle DGG, qui nous appelle de Corse. Ah. Parce que Manu, il est vice-président de la Fédération
Corse
des pêches récréatives. Bonjour Manu, bienvenue dans les GG, dans les grandes gueules. Salut Manu, vous vouliez intervenir sur le sujet de la pêche là, avec Bruno, je vous écoute.
Oui, salut à tous, bonjour tout le monde. D'abord, on a bel abrace à tous les gosses du salon. Voilà, j'embrasse tous les gosses du salon.
Ah bah ils sont là, on les dit juste à côté de chez nous. Ouais.
Ben allez-y. Voilà. Bon, dites-moi. Oui, il y a un très très gros souci. On le voit dans la pêche récréative aujourd'hui en Corse. Mais bon, de toute façon, c'est flagrant. On le voit même sur la pêche artisanale. En Corse, les pêcheurs artisanaux, d'année en année, il y en a beaucoup moins. On voit qu'il y a un gros souci à ce niveau-là. C'est en fait, je pense qu'on nous attarde sur des détails et c'est sur la méthode que ça va très mal. Voilà, c'est là-dessus que je voudrais aller finalement. Parce que nous aussi, en tant que fédération, on s'essouffle sur des lois qui sont mal faites, des lois qui ont des impositions de quotas ou de règles de pêche qu'on nous impose avec des études scientifiques qui sont catastrophiques, qui n'existent même pas. Nous, on a le problème sur le dentier en Corse aujourd'hui avec, je dirais, une consultation publique qui est introuvable depuis le 11 février, donc c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est sur la méthode. C'est là-dessus qu'il faut appuyer, si je peux donner ce conseil-là à tout le monde. C'est que tout est fait pour nous diviser. Et que ça soit, je pense, dans le Boulonnais ou en Corse, c'est la même situation. C'est-à-dire qu'on a opposé les pêcheurs, qu'ils soient artisanaux ou de loisirs. Parce que je pense que si demain, tout ce petit monde se met autour d'une table pour décider sur son territoire des actions à mener, ça va être une force. Et cette force, je pense que elle n'est pas la bienvenue par rapport aux autorités. parce que ils se sentent, je pense qu'ils savent très bien qu'ils vont vite être dépassés par la connaissance empirique que peuvent avoir les pêcheurs de loisirs et les pêcheurs professionnels.
Alors, Manu, il y a Bruno. Vous êtes d'accord avec votre ami Corse, avec Bruno, avec Manu,
de toute façon. Mais tout le monde a sa place, que ce soit le pêcheur de loisirs, le pêcheur professionnel. On a tous notre place. Bien entendu, mais je répète sans arrêt, toutes les techniques de pêche sont bonnes à condition qu'elles soient bien encadrées.
Merci Bruno, merci d'avoir été avec nous. Merci à Manu qui a dialogué avec Bruno. Justement, puisqu'on parle des produits, des bons produits de la mer.
Il arrive là, le bon produit, regarde le merlan.
On va faire une petite dégustation de merlan, justement.
Oh là là,
dégustation de merlan de chez ICO. Oh. De France, ouais. Bien sûr, avec Christophe Pirotet. Il est chef de l'Épicurieux à. Où ça? À quel endroit alors, l'Épicurieux?
L'Épicurieux à Illy.
À Illy, je ne veux pas dire de bêtises, faites goûter ça.
Délicieux, délicieux. Avec une petite sauce.
Excellent. Hein. Un petit coup de merlan, là.
Quelle ville?
Illy.
Elle est à quoi, la petite sauce, monsieur?
Non, c'est là.
Attends, au micro, parce que sinon vous entendez.
Entre où?
Entre Lens et Lille.
Merci.
Venez.
L'Épicurieux à Illy.
La petite sauce, alors, il y a quoi dedans?
Approchez-vous du micro, allez-y. Ben, il a son plateau. Donnez-moi le plateau, si vous voulez. Allez, hop. Avec le merlan, tac. Allez-y.
Alors, c'est un bouillon thaï. Dedans, il y a de la coriandre, du gingembre et un peu de citron vert.
Parfait.
Et avec le merlan, ça, c'est bien.
Ouais. Très bonne association.
Il y a un potentiel pour les accompagnements un peu asiatiques dans tous ces poissons qui est extraordinaire.
Merci.
Bravo à vous.
Merci, au comité de la pêche d'être passé voir les GG, passé voir les grandes gueules. Dans un instant, suite des GG. Alors là, on est sur un autre gros poisson, là, la France insoumise. Mmh. Mais c'est un poisson dont plus personne ne veut.
On va pêcher le Mélenchon.
Oui, et un poisson que voudrait dissoudre Christian Estrosi. Est-ce qu'il faut dissoudre LFI au regard des derniers événements? C'est au 32-16 que vous venez en parler avec les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG, les grandes gueules en direct du stand des Hauts-de-France. Nous sommes à la région des Hauts-de-France aujourd'hui. De retour, les grandes gueules au salon de l'agriculture avec Emmanuel Devilliers, Barbara Lefebvre et Abel Boyer. On vous y attend sur ce salon de l'agriculture, bien évidemment, jusqu'à midi, puisque nous y sommes en direct. En général, les GG jouent toujours un peu les prolongations au milieu des stands. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sont les coulisses des GG, des grandes gueules. Avec nos amis GG, les copains, on va continuer la discussion. On va continuer la discussion politique. Discussion politique que l'on continue avec les grandes gueules et bien évidemment avec vous au 32-16 parce qu'il est question de la France insoumise et de ce que dit Christian Estrosi. Christian Estrosi, le maire de Nice, le vice-président d'Horizon, il dit là aujourd'hui, peut plus. LFI fricote trop aujourd'hui avec ce qui est quelque chose qu'on ne peut plus accepter, avec l'inacceptable. Il y a eu l'antisémitisme, il y a eu le soutien au Hamas. Et maintenant, voilà ce qui se passe avec la mort de Quentin Derenque. C'est la violence. LFI, il faut dissoudre et suspendre le financement public.
Moi, je demande au gouvernement, dans une clarification, de suspendre les financements à LFI tant que la lumière n'est pas faite sur les liens entre Jeune Garde et LFI. Tant qu'il n'y aura pas une procédure qui aura clarifié les choses, il n'y ait pas un centime d'argent public pour LFI tant que cette lumière n'est pas faite sur leurs liens.
Donc, pour Christian Estrosi, il faut couper le robinet du financement et réfléchir à la dissolution du mouvement, du parti de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est lui qui va le plus loin dans les critiques portées contre la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il veut carrément dissoudre la France insoumise. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du temps du Front National, il y avait déjà des débats sur faut-il, oui ou non, interdire le Front National. On jugeait Jean-Marie Le Pen violent dans ses propos, parce qu'il faut quand même des critères pour arriver à dissoudre un parti politique comme une milice ou un mouvement. C'est une loi qui date de 1936. Et notamment parmi les critères, c'est effectivement l'incitation à la violence, l'incitation à la haine et autres. Alors est-ce que LFI rentre dans ce cadre? Est-ce que c'est la meilleure façon de lutter contre un parti et ses idées que de demander son interdiction? Est-ce que c'est la conception de la liberté d'expression que nous avons en France? Et puis la deuxième chose, quand il dit il faudrait arrêter de financer rejeter publiquement la France insoumise. Alors là aussi, avec quel sur quels critères? Parce que effectivement, la vie politique française est financée par notre argent. Hein. Les partis vivent de l'argent public en grande partie, aussi de leurs adhérents. Mais enfin, il y a de moins en moins d'adhérents dans les partis. Est-ce qu'il faudrait priver de financement public à LFI? C'est une bonne idée?
Oui. Alors, Monsieur Estrosi, surnommé, c'est bien connu, le motodidacte, et comme les nouveaux convertis, c'est-à-dire le plus virulent. Mais c'est pas très réaliste. Je ne pense que du mal de la France insoumise. Mais c'est pas très sérieux de la part d'un homme politique, expérimenté et reconnu comme Christian Estrosi, de formuler une telle proposition dont il doit savoir en son fort intérieur qu'elle est totalement irréaliste. Bien sûr que la France insoumise est éminemment critiquable, qu'il faut la combattre, qu'il faut la ramener sous les 10%. Je crois que ça sera le score de M. Mélenchon à l'élection présidentielle, sous les 10%, donc divisant son score par deux par rapport à la dernière élection. Mais il n'est pas possible, il n'est même pas souhaitable d'aller sur le terrain d'une interdiction ou de la privation des subsides publics. Mais parce qu'à ce moment-là, si on simplifie le débat, tous les partis qui auront la majorité voudront faire disparaître leurs concurrents minoritaires. Non, c'est pas sérieux quand on est en démocratie. Il faut réprimer très sévèrement les délits, voire les crimes. Mais il n'est pas question de priver une formation politique, selon la formule d'usage, représentée au Parlement, ni de ses subsides, ni de son existence dans l'arène politique.
Le seul dans une démocratie qui a le pouvoir de dissoudre un parti, c'est l'électeur.
Exactement.
C'est le citoyen électeur. Mm-hmm. Qui pense par lui-même, qui a sa majorité civique. Et moi, encore une fois, je vous le dis, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon va lui attirer de nouveaux électeurs, mmh. en particulier chez les jeunes qui sont très tentés par la radicalité et qui ont, on va le dire, peu de culture historique et peu de culture littéraire. Donc effectivement, ce genre de tribun peut leur plaire. Mais encore une fois, c'est le peuple qui peut dissoudre ou qui peut mettre au pouvoir un parti. Que M. Estrosi passe par ce genre de formule, moi, ce que j'aurais aimé plutôt, c'est que M. Estrosi rappelle à la justice le nombre d'articles 40 qui ont été déposés par nombre de députés, des députés européens, des députés nationaux.
Rappelez ce que c'est que l'article 40, Barbara.
L'article 40, c'est lorsque des propos sont signalés au procureur de la République. Monsieur Porte, Monsieur Caron, Madame Rima Hassan, Monsieur Guiraud, et j'en passe et des meilleurs, ils ont des tonnes d'articles 40 sur le dos. Depuis 2 ans et demi, voire plus, voire même l'époque des Gilets jaunes pour certains comme Monsieur Porte, toujours pas de convocation, toujours pas de procès. Je me permettrai de signaler que d'autres, ça va beaucoup plus vite pour d'autres. Pour d'autres, on est auditionné rapidement et on est rapidement traduit devant la justice. Pour les députés de la France insoumise, c'est-à-dire qui, eux, ont eu une parole d'incitation à la haine, d'appel à la discrimination et de propos à caractère antisémite, eux, par contre, pour l'instant, la justice continue d'enquêter. Donc moi, ce que je voudrais plutôt, c'est que, effectivement, s'il y a eu des propos à caractère antisémite, s'il y a eu des appels à la haine, oui, que la LFI soit sanctionnée. Mais qu'on vienne dissoudre un parti, non. Encore une fois, ils ont un électorat et c'est très important qu'on puisse compter cet électorat, qu'on puisse voir la poussée de cet électorat, qu'on puisse voir sa sociologie et sa géographie. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est voir là où, puisqu'on parlait tout à l'heure avec une métaphore de pêche, j'aimerais bien voir là quelles sont les nouvelles zones de pêche de la LFI pour bien comprendre justement quelle est cette nouvelle France que M. Mélenchon nous promet.
Abel Bouilly.
Tout a été dit. La réalité, c'est que pour battre un parti, il faut le battre à travers les urnes. Christian Estrosi est en grande difficulté politiquement et c'est un petit peu ses politiques, comme tu le disais très justement,
qui
cherchent à exister en balançant des choses un petit peu coup de poing comme ça pour exciter son électorat. C'est ça qu'il vise. C'est exciter l'électorat niçois. Qui lui reste pour aussi quelque part le radicaliser à sa cause, c'est-à-dire LFI fait peur, votez pour moi parce que à Nice je vais vous protéger d'LFI. C'est ça le message qu'il faut voir. Donc indépendamment d'apprécier ou de ne pas apprécier Jean-Luc Mélenchon, s'il faut le battre, c'est dans les urnes, comme tu l'as dit. Il y a des électeurs assez jeunes, donc cette proposition est complètement caduque parce que lui-même sait que ça n'aboutira à rien et c'est insulter même l'intelligence des électeurs que de proposer cela.
Pourtant, aujourd'hui, LFI avec ses outrances, avec la violence qui entoure le parti, est-ce que ça pose pas quand même un problème démocratique?
C'est à la justice de trancher.
La justice, là, tu as cité des cas individuels. Oui. Or, cette radicalité du parti, que ce soit dans les débats à l'Assemblée nationale, même pour la tenue et la teneur des débats, si tu veux. On le voit, le nombre. Souviens-toi des incidents qu'il y a pu avoir au perchoir, de ces députés qui sont même descendus pour quasiment venir aux mains avec Sébastien Chenu ou avec Madame Braun-Pivant à l'invectivant. Ça pourrit quand même le débat
politique. Bien sûr que ça pourrit le débat. Moi, ce que j'aimerais savoir. Donc,
sans aller jusqu'à dissolution, ça doit nous interroger quand même. On ne peut plus avoir de débat apaisé aujourd'hui à l'Assemblée.
Comment se fait-il que des SDJ, dans certains médias, c'est des syndicats qui sont très souvent d'ailleurs certains pour certains SDJ plutôt affiliés à la CGT et à LFI d'ailleurs, mais on les entend pas eux porter plainte contre Madame Chikirou qui a quand même traité les journalistes de nazis au petit pied.
C'est vrai.
Le corps professionnel a été diffamé. Le corps professionnel.
Il n'y a pas de levée de bouclier.
J'ai pas vu de plainte déposée par des SDJ, alors que normalement des SDJ auraient dû, la SDJ de BFM, la SDJ de CNews, la SDJ d'LCI, devraient porter plainte contre Mme Chikirou. Ils ne le font pas. Ça montre bien qu'il y a une certaine complicité et complaisance.
Ce qui est intéressant, alors moi je pense évidemment.
Vous voulez traiter de nazi,
ce que dit Christian Estrosi n'ira pas jusqu'au bout, mais néanmoins, finalement, on se pose des questions sur la France insoumise qu'on se posait sur le Front National de Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Lorsqu'il a émergé, il y avait des débats. Faut-il, oui ou non, interdire le Front National? Le Front National est-il républicain, démocratique? Est-ce qu'il incite à la violence? Moi, je me souviens, il y avait des débats. Il y avait des élus politiques de gauche, notamment, qui demandaient l'interdiction du Front National. Et là, aujourd'hui, eh bien, finalement, on voit des élus de droite ou de centre-droite demander l'interdiction des LFI. En fait, Jean-Marie Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est le nouveau Jean-Marie Le Pen. Il s'est diabolisé et il devient diabolique.
Oui. Mais c'est comme en expérience de collège, en classe de chimie, Abel a très bien décrypté le précipité, le résultat de l'expérience, à savoir que c'est pour se valoriser. Et en désignant un parti qui est en perte de vitesse et que tous les autres électeurs n'aiment pas, on essaye de s'attirer. Un brevet de sens politique et de sens national.
La différence avec Jean-Marie Le Pen, c'est que Jean-Marie Le Pen a été maintes fois condamné par la justice. Monsieur Mélenchon n'est jamais condamné par la justice, puisqu'il n'est jamais poursuivi, puisqu'encore une fois, il n'y a jamais de plaintes qui vont au bout. Pourquoi, à une certaine époque...
Il n'a peut-être pas tenu les mêmes propos non plus.
Il n'a pas tenu des propos révisionnistes
sur la Seconde Guerre mondiale.
Mélenchon
n'a pas tenu
des propos révisionnistes, en tout cas, de l'histoire. Quand on parle du peuple juif en disant le peuple déicide, on va même au-delà, même, je dirais, du révisionnisme.
Mais ça ne tombe pas sous le coup de la loi, ça.
Monsieur Mélenchon et sa troupe ont tenu des propos depuis le 7 octobre qui relèvent largement de l'incrimination d'antisémitisme. La question c'est, pourquoi ne sont-ils pas poursuivis? Monsieur Le Pen a été poursuivi, il a été condamné, et c'est ça qui a fait beaucoup que son parti, le Front National, n'arrivait pas à franchir un certain nombre de caps et un certain nombre de plafonds. C'est parce que Marine Le Pen a fait le ménage que le Rassemblement National a pu faire entendre la partie du programme qui n'était pas entaché par l'antisémitisme et le racisme.
Barbara, c'est une stratégie de la part de Jean-Marie Le Pen. Il disait, un Front National gentil, ça ne fonctionne pas. Il était d'ailleurs en désaccord avec Marine Le Pen, c'est pour ça qu'il en a rajouté toujours dans la surenchère, la provocation. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça, excusez-moi de faire ce rapprochement, mais Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est dans la stratégie du on n'est pas là pour être gentil, de toute manière ça sera payant parce que je vais attirer à moi des gens qui attendent que ce discours radical, la stratégie de la colère.
Mais la différence encore, c'est que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas gouverner, il voulait être le troublion de la vie politique, mais au sens de la...
Tu crois vraiment que Jean-Luc Mélenchon pense gagner?
Je voudrais juste dire une chose, pour aller au bout de ma phrase. Juste au sens de la 4e
République. Juste une chose, alors.
Il restait un parlementaire, Le Pen. Il voulait être le troublion de la vie parlementaire française. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ça. Il veut l'insurrection. Jean-Luc Mélenchon, il veut la guerre dans les rues. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que le danger n'est pas le même. Le danger de Jean-Marie Le Pen, ça restait un danger parlementaire et politicien avec les codes de l'époque. Jean-Luc Mélenchon, c'est autre chose. Il veut vraiment que les gens se battent dans la rue. Il veut l'insurrection. C'est en ça que la LFI est dangereuse et bien plus dangereuse que Jean-Marie Le Pen.
Il faut se garder.
Le Pen, c'est quand même la prolifération
prolifération du racisme dans les années 80 et 90.
Quand il y aura des affrontements dans les rues,
je pense pas que Jean-Luc Mélenchon recherche la guerre civile. Il a ses outrances, mais à partir du moment où tu es d'accord qu'il ne faut pas dissoudre LFI, la réalité, c'est que tout ce que l'on rajoute après n'est que subjectif.
Tu l'as dit toi-même,
s'il faut battre Jean-Luc Mélenchon, c'est par les urnes. Et toi-même, tu l'as dit à plusieurs reprises, les deux partis aujourd'hui qui ont une colonne vertébrale, que l'on soit d'accord ou pas, c'est LFI et le Rassemblement National.
Gardons-nous de faire parler ni les morts, ni les vivants. Jean-Luc Mélenchon est un aventurier, c'est un opportuniste, il n'a pas de stratégie définie. C'est d'ailleurs tout son problème.
C'est ton avis. Moi, je pense qu'au contraire, ils ont une stratégie extrêmement calculée et il ne faut absolument pas les prendre pour des abrutis. Et quand ils vont perdre dans les urnes, ils iront gagner dans la rue, c'est ça que je vous dis, mais vous pouvez ne pas. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est mon scénario. C'est vrai que Mathilde Panot, c'est tout.
Non, mais c'est vrai que Mathilde Panot a tenu.
Mathilde Panot l'a dit elle-même.
Alors. A tenu des propos assez particuliers cette semaine, puisqu'elle a dit, en gros, on va tout faire pour empêcher que Marine Le Pen soit élue démocratiquement. C'est des propos qui ont d'ailleurs choqué. Il y a quand même une ambiguïté. Bien sûr, moi, je ne crois pas du tout au fait que Jean-Luc Mélenchon va aller se battre dans la rue, mais quand on laisse planer le doute que si on n'arrive pas à empêcher le RN d'arriver au pouvoir par les urnes, on l'empêchera différemment.
On a une consultation, on a posé la question, est-ce que vous seriez favorable à la dissolution de LFI ? Qu'est-ce que vous en dites ? Oui ou non ? C'est un oui quand même. À près de 72%. On a dépassé la barre des 70%. Dans un instant, le défi des GG, le défi des grandes gueules, on va se retrouver à un concours d'épluchage de pommes de terre.
Enfin du sérieux.
Oui. Allez, restez avec les grandes gueules en direct du stand de la région des Hauts-de-France.
Et faites venir les pommes de terre.
Au salon de l'agriculture. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct du stand des Hauts-de-France, ici au salon de l'agriculture. Les amis, nous sommes face à la friterie des Hauts-de-France. Pourquoi ? Parce que les copains, attention, on est avec Aurélie Mestré, propriétaire d'une friterie à Lille. Aurèle. C'est le premier champion du monde de la frite et il est avec nous. Bonjour Aurèle.
Bonjour.
Et t'es avec nous parce que les GG ont un défi.
Attention.
C'est ça.
Exactement. Donc aujourd'hui, il va falloir réussir à éplucher deux pommes de terre le plus vite possible.
Alors attends, parce que Abel triche, il commence.
Si en plus, il a regardé des tutos pendant la pub.
Oui, bien
sûr. C'est vrai, t'as regardé des tutos pendant la pub.
Non, c'est pas vrai.
Il n'a jamais épluché de pommes de terre.
Non, jamais.
Bon, alors attends, avant qu'on se lance dans ce défi d'épluchage des pommes de terre, est-ce qu'il y a eu, on a notre économe. Alors c'est l'économe manche en bois, bien évidemment, le vrai économe.
On démarre la compète avec l'économe comme ça.
Et les pommes de terre dans la barquette.
On a la barquette. Allez, alors attendez, on va expliquer. Les grandes gueules ont une barquette en alu. Dans chaque barquette en alu, il y a deux pommes de terre. Nous avons tous à la main un économe manche en bois. Et c'est toi, mon cher Aurèle, qui va donner le top départ.
On prépare le retour du service militaire.
Vous êtes prêts ? Ouais.
On est prêts ? Allez, c'est parti.
C'est parti. Allez, on épluche.
Allez,
là, ça va vite.
Je peux dire que Emmanuel.
C'est la main gauche.
Emmanuel
Ivalide. Que Barbara est très concentrée.
Emmanuel Ivalide.
Abel, il a déjà oublié son tuto.
Emmanuel, il fait ça à l'ancienne. Il met des petits coups. Ah, mais attends, hé hey. Il met des petits coups de couteau. Barbara,
je suis sur la deuxième déjà.
Attention,
il faut tout enlever. Hein.
Alors attention.
Oui, mais après,
Abel n'a toujours pas fini la première. Hein.
Abel n'a pas fini la première.
Barbara est triche.
Pas du tout.
Moi, ma pomme de terre, elle était un peu mouillée, ce qui fait que j'ai été.
Alors ça y est, il commence à trouver des excuses.
La pomme de terre d'Emmanuel De Villiers.
Emmanuel, il fait ça un peu quand même comme un boucher. Hein.
Est tombé.
Emmanuel, c'est un massacre.
Terminé, mes deux patates, elles sont finies.
Attends,
elles sont finies.
Ah oui,
je te dis,
terminé.
C'est moi la première.
Oui, c'est Barbara.
Et entre Olivier et moi.
Là, il en reste quand même beaucoup dessus, hein, je tiens à le dire.
Emmanuel. Abel a toujours pas fini
Emmanuel
la première.
Emmanuel en deuxième. Mais c'est vrai. Mais n'importe quoi.
Abel, il en reste. Oui, mais est-ce qu'il l'a bien fait, Emmanuel? Il reste des bouts quand même.
Non, on en a mis partout de l'épluchure des pommes de terre. Et dis donc, quand la pomme de terre, elle est noire comme ça à l'intérieur, ça veut dire qu'elle n'est pas très bonne.
Alors, en fait, là, nous, c'est des pommes de terre que normalement, on épluche davantage. Donc, en fait, ça va enlever tout ce côté qui est un peu noir en surface. Et puis, après, on fait le tri, forcément. Là, on a essayé de sélectionner des pommes de terre qui étaient bien calibrées pour tout le monde. Donc, effectivement, c'est peut-être parfois un petit peu accidenté.
Mais dis-moi, Aurèle, ça consiste en quoi d'être premier champion du monde de la frite? Quel est le critère? Comment, c'est quoi le championnat de la frite?
Alors, en fait, il fallait donc faire des frites 100% maison, évidemment. Donc, avec l'épluchage, la découpe, les pré-cuissons, la cuisson. Et donc, en fait, moi, à la base, j'ai une friterie à Lille. Et donc, j'ai concouru dans la catégorie professionnelle. Et c'est la catégorie, du coup, j'ai remporté. Mais l'objectif, ouais, clairement, c'est...
C'est quoi une bonne frite?
Alors, une bonne frite, c'est une frite qui serait moelleuse à l'intérieur, croustillante à l'extérieur, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on fait deux cuissons, qu'elle soit cuite à l'intérieur et bien croustillante. Et surtout, c'est une frite qu'on pourrait manger comme ça sans rien, juste avec un petit peu de sel.
Mais ça, par exemple, c'est une bonne pomme de terre pour faire des frites.
Là, donc en fait, c'est de la binge qui vient des Hauts-de-France, de Comines, qui est la pomme de terre idéale pour faire de la frite.
Mais alors, est-ce qu'il y a un calibre précis de la frite en elle-même ou pas?
Important, ça.
Alors, il y a différentes écoles. Moi, par exemple, je fais de la frite en 10-10, donc c'est 10 mm par 10 mm. Il y en a qui font des frites un petit peu plus petites, des allumettes en 6-6. Dans d'autres pays, par exemple, la Belgique, ils font des frites un petit peu plus grosses.
Ah bon? Oui, et à Bruges, il y a le musée de la frite. Ah, ça, c'est sûr.
Ah, j'ai visité le musée de la frite.
Ça n'est pas assez vrai, il y a le musée de la frite à Bruges.
Il y a un musée de la frite à Bruges, il y a une friterie dans le sous-sol du musée.
La filière connaît des difficultés, pourquoi?
La filière à pommes de terre, c'est ça?
Les prix sont bas actuellement, je pense que c'est le principal problème. Après, moi j'ai des accords avec mon agriculteur où on essaie d'avoir un prix établi sur toute l'année.
Il faut acheter de la pomme de terre française.
Il faut surtout acheter local et français, exactement.
Et pas transformé.
Ouais, mais alors attends, parce que...
Comme celles-là, elles sont magnifiques.
Quand on va maintenant, pour la majorité des Français, on fait les courses au supermarché.
Ouais.
Et c'est vrai que quand on est au rayon légumes, les sachets de pommes de terre, on en a des tout petits, on en a des gros qui sont déjà pré-emballés, on en a en vrac, lesquels on doit privilégier dans ces cas-là alors? Et tu sais, tu as même des pommes de terre que tu remets directement au micro-ondes.
Ouais.
Maintenant.
C'est juste ce sachet, ça qui change pour les pommes de terre micro-ondes. Le sachet est différent, mais les pommes de terre sont les mêmes. En fait, on peut aussi le faire dans un bol avec du cellophane en faisant des trous. Non, ce qu'il faut, c'est. Il n'y a pas forcément sur le vrac ou l'emballé, ça dépend de la quantité dont on a besoin. C'est surtout prendre du français et les bonnes variétés adaptées à ce qu'on souhaite faire.
Ouais. C'est qui fait les frites à la maison, ou est-ce que vous les achetez surgelées ou pas? Parce que je sais que
je l'ai fait moi-même, mais après c'est long parce qu'effectivement pour faire des bonnes frites, il faut faire deux bains d'huile. Ouais. Voilà. Et il faut avoir une friteuse. Alors moi j'ai essayé récemment les frites au air fryer. C'est bon,
c'est-à-dire
mais c'est
comment les frites?
Ah ben non, ça sort pas croustillant.
Non, c'est un peu mou.
Ça sort un peu mou, mais bon, et diététiquement, c'est un peu mieux, c'est sûr, parce que il y a moins d'huile.
J'ai trouvé un peu molle, moi.
Elles sont faites maison, mais je confesse que c'est pas moi qui les fais.
Ben ça, on a bien vu.
Est-ce que tu épluches au moins ou pas du tout?
mais quelle honte!
Allez,
c'est la première fois. Regarde, c'est parfait. Regarde, parfait.
Voilà la perfection de Barbara. Voilà.
Fait des frites avec
bien, pour ce qui nous concerne, à la fois artisanal, mais pas forcément coupé taille frites, plutôt en morceaux de pommes de terre, mais aussi parfois émanant d'un grand leader, parce que des toutes petites frites ont un caractère intéressant également.
Mais alors comment, parce que Barbara disait l'air fryer, ça le fait pas. Comment, quelle est la meilleure graisse pour cuisiner les frites alors?
Graisse de bœuf.
Ouais, ça reste la graisse de bœuf. Moi, la différence que j'ai à la friterie, c'est qu'en fait, je suis une première cuisson en huile, deuxième à la graisse de bœuf, donc ça. Ce côté un petit peu plus léger de l'huile, la première cuisson, parce qu'en fait le gras va vraiment s'égoutter. Et la graisse de bœuf, ça donne un goût vraiment différent et ça donne une croustillance qui est quand même à part.
Mais est-ce que tout le monde peut le faire, la graisse de bœuf, ou pas?
Tout le monde peut le faire, la graisse de bœuf, ça peut s'acheter au supermarché. Après, ça dépend de ce que mange chacun aussi, ça dépend de ça, mais tout le monde peut le faire à la graisse de bœuf.
Tout ça donne faim, on n'a toujours pas de frites entre les mains.
Elles doivent être en train d'avoir normalement.
Et quand on est à l'étranger, au bout d'un moment, ce qui manque le plus, c'est un bon steak frites français.
Oh ben attends,
des bonnes frites. Ouais.
Aujourd'hui, les frites, c'est quand même international quasiment. Maintenant, tu en trouves partout.
Mmh. Des frites. Oui, mais à l'étranger, les frites ne sont pas bonnes.
On appelle ça des French fries aux États-Unis.
Alors
attendez, parce que là, il y a un prix à remettre à Barbara.
Eh oui, comme c'est toi qui as gagné, bien évidemment.
C'est vrai,
c'est Marie-Laure Fréchet qui.
Bonjour.
Marie-Laure, bonjour. de la confrérie de la frite.
Voilà les frites.
De la frite d'Arras. Exactement. Alors, quel est le prix pour notre amie Barbara Lefebvre?
On va lui offrir un joli t-shirt. Formidable. Le t-shirt du championnat du monde de la frite.
Oh, génial.
Chaque année.
Barbara, félicitations.
Tu l'as mérité.
Bienvenue, voilà. Bienvenue dans la confrérie des mangeurs de frites. Et alors, les peleurs de pommes de terre.
Alors, elle n'est pas encore intronisée
alors,
en confrérie. Hein.
Autre question.
Peut-être un jour, mais...
Autre question peut-être. Sur la frite. Parce que...
Ça va être pratique, Alain, avec les frites dans la bouche.
Qu'on doit beaucoup les saler, est-ce qu'on doit beaucoup les saler ou pas, les frites?
Alors, on ne doit pas beaucoup les saler, mais on doit les saler tout de suite quand elles sortent du dernier bain, n'est-ce pas, Aurel?
Exactement, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de besoin en sel quand la frite est chaude, puisqu'en fait, le sel va fondre et va se coller à la frite, tandis que si vous les salez quand elles sont un petit peu tièdes ou froides, en fait, le sel va passer à travers et vous
et avec
beaucoup pour pas grand-chose.
Et avec la frite, ketchup ou mayo?
Personnellement, mayo.
Mayonnaise, évidemment. Maison, mayonnaise, maison.
Mayo.
Et dans le Nord, le vinaigre qu'on met sur les frites dans le Nord, c'est délicieux, ça.
Alors, moi, c'est pas mon goût, mais effectivement, c'est un peu traditionnel du Nord de mettre, des Hauts-de-France, de mettre du vinaigre sur les frites.
C'est une tradition.
Pourquoi vous mettez du vinaigre? Pourquoi mettez du vinaigre?
Ouais, c'est très bon, ouais.
Il paraît que ça adoucit un petit peu.
Crème et vinaigre.
Ouais, ça enlève un petit peu la graisse.
C'est parce que, effectivement, l'acidité casse le gras de la frite.
Oui, le vinaigre le plus simple du vinaigre, vraiment d'entrée de gamme, pas du vinaigre balsamique ou épais.
C'est ça, du vinaigre de vin, du vinaigre de cidre. Faut quand même pas juste du vinaigre d'alcool blanc, un vinaigre qui a un petit peu de goût, quand même, ça amène quelque chose.
Et alors? Les
bonnes,
fameuses
hein.
frites ouais. industrielles, très franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les Français en achètent majoritairement quand même.
C'est pas. Moi, c'est vraiment pas ce que j'aime. Je
ça
peux comprendre
ça,
que
hein.
ça a quand même un avantage. On peut les faire au four, mais non, clairement, pour moi, c'est
surtout
un.
Surtout en fait, à l'intérieur, c'est de la purée. C'est de la purée de pommes de terre qui est remise en forme pour faire de la frite.
Ouais.
Alors après, je veux pas dire du mal des gens qui font ça,
si,
mais
si,
effectivement,
vous pouvez dire
après,
du mal de l'industrie agroalimentaire. Hein.
Allez, on se lâche. Non, mais après, vous savez pas vraiment les variétés qu'il y a dans les sachets. Vous connaissez pas les modes de cuisson. Parfois, la provenance est pas forcément claire non plus. Moi, je conseille vraiment, si vous voulez, ça s'achète aussi des frites fraîches pré-cuites françaises. Tout ça existe au supermarché. Faut vraiment éviter le surgelé au maximum.
Mais est-ce que ça se fait réchauffer les frites?
Alors ça peut se faire réchauffer, il faut les mettre dans un four très chaud, bien à plat, pas très longtemps en fait. Vraiment 2-3 minutes, histoire de les faire croustiller, pas qu'elles sèchent, mais vraiment leur donner un petit peu de chaleur, normalement ça fonctionne.
Mais juste avant les pommes de terre, est-ce qu'on les rince ou pas? C'est-à-dire là, on les a pelées, est-ce que dans ces cas-là tu les coupes tout de suite et tu les fais cuire tout de suite ou tu les rinces?
Alors en fait, faut les couper. Déjà, si on veut les conserver une fois qu'on les a épluchées, il faut les mettre dans l'eau, sinon elles noircissent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on les coupe et là, on vient les mettre dans un bain d'eau qui enlève une partie de l'amidon et on fait justement qu'elles s'oxydent et qu'elles noircissent.
Mmh. Il va y avoir
un régal.
Alors, si vous voulez retrouver notre camarade Aurel, vous faites le hall 7.
Exactement.
Vous prenez les escalators.
Troisième étage.
Vous venez au stand de la région des Hauts-de-France et vous tombez sur la friterie. Elle est ouverte toute la journée, la friterie?
Alors non, on fait des distributions, 3 distributions par jour. On ne veut pas faire concurrence aux gens qui vendent à côté, donc on fait 3 distributions.
Oui, parce que sinon, c'est l'émeute. Quand, en
Exactement.
Général,
c'est gratuit, oui.
Quand le stand frites ouvre, je peux vous dire que... Tout le monde arrive pour déguster la petite barquette de frites. Merci Aurel.
Merci
d'être venu.
Merci à vous.
Aurel Mestré. Et attends, la friterie à Lille, donnez le nom quand même.
Donc, friterie Mestré, vous avez le logo ici, comme mon nom de famille, qui se situe au 305 rue Léon Gambetta, pas très loin du marché d'Oisem, un très beau marché.
Et il faut quand même préciser que si on veut déguster le meilleur de la frite, c'est à Arras, le 26 septembre, au championnat du monde de la frite.
Ah bah
c'est
oui, bien sûr.
Exactement.
À cette grande fête de la frite.
Merci les copains, merci d'être passés nous voir. Suite des GG dans un instant. On a des bons sujets de discussion avec vous, bien évidemment. Le défi d'Emmanuel de Villiers, il va aller du côté des moutons du Boulonnais tout à l'heure. Il va se frotter aux moutons, l'ami Emmanuel.
Oh, bonne.
On parlera de cette chaleur record aussi dans le pays. Est-ce qu'on peut quand même se dire que c'est cool qu'il fasse 28-29 degrés?
On n'a plus le droit.
Ou pas?
Il y a des consignes.
Vous venez en parler tout à l'heure à 11h20. Et puis on va s'intéresser à ce qu'a dit Marine Le Pen hier soir sur BFM TV. Si jamais elle est condamnée qu'elle a un bracelet électronique, hors de question de faire campagne électorale avec un bracelet. Est-ce qu'elle a raison ou pas? 32-16 pour en discuter avec les GG. Il est 11h05.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.